SBS Audio is supported by advertising.
You got to tell me about this.
See the breathtaking beauty of Australia with the man who knows it better than anyone else, Ernie Dingo.
Oh my, amazing.
Going places with Ernie Dingo. Stream free on SBS On Demand.
Vous êtes avec SBS French.
Alors aujourd'hui dans l'émission en français, on a la chance de recevoir l'ambassadeur de France en Australie. Bonjour, Monsieur Humbert.
Bonjour, Christophe.
Alors, c'est un plaisir de vous avoir dans nos locaux, comme à chaque fois. On a pas mal de choses à discuter. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de choses qui se passent pour les relations entre la France et l'Australie. Tout d'abord, si on regarde tout de suite vers l'avenir, la semaine prochaine, quelque chose de très intéressant. L'Astrolabe, ce bateau tellement connu des Français, eh bien, il sera à Hobart. Et c'est pas sa première visite en Australie, on en a déjà parlé. C'est important d'avoir un bateau comme l'Astrolabe présent sur un sol, au final, un port australien.
Alors, l'Astrolabe, avec sa présence à Hobart, en Tasmanie, ça montre à quel point, en fait, on a une coopération extrêmement forte avec l'Australie pour aller et supporter nos bases en Antarctique. L'Astrolabe, c'est le brise-glace français. Et durant l'été austral, il fait des allers-retours entre Hobart, qui devient son port d'attache, et la base antarctique du Mont d'Urville, qui va servir donc à ravitailler nos scientifiques, à en amener d'autres, à ravitailler aussi la base Concordia, mm-hmm. franco-italienne, qui est perchée à 2000 mètres d'altitude au milieu de l'Antarctique.
Vraiment, perché à 2000 mètres. Hein.
Vraiment perché, et ils sont vraiment enfermés quand c'est l'hiver austral, c'est vraiment des conditions absolument terribles. Il lui arrive aussi chaque saison d'aller ravitailler Macquarie Island, qui est une île australienne. Et au fond, on a une excellente coopération. À l'intérieur, on embarque beaucoup de matériel australien, du CS Aero. Les scientifiques s'échangent. Donc là, on a vraiment un travail en commun parce que on a à cœur ensemble de défendre aussi cette terre vierge d'exploitation qu'est l'Antarctique entre Australiens et Français.
Mais là, sur Hobart, c'est une séquence un peu spéciale parce que c'est bien plus que juste la visite d'un bateau pour recharger les soutes et le matériel.
Et alors cette année, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire pour nous les Français, c'est que nous organisons 3 jours en fait de festivités à Hobart autour de notre superbe icebreaker, notre brise-glace, qui va célébrer la coopération scientifique. On a des scientifiques qui viennent de France, d'Australie, de partout d'ailleurs dans le Pacifique, qui débattront aussi des enjeux pour le réchauffement climatique de ce qui se passe en Antarctique, et c'est clé pour le climat aujourd'hui en Australie, ce qui se passe en Antarctique. Nous allons aussi remettre des médailles, celle de la première médaille Bob Hawke, Michel Rocard sur l'Antarctique.
À savoir que c'était les deux ambassadeurs légendaires pour l'Antarctique.
Exactement, deux anciens premiers ministres qui, eux, ont été absolument déterminants aussi tout au long de leur vie pour travailler ensemble pour l'Antarctique. Et puis, nous aurons aussi l'attribution des bourses qui sont délivrées en commun par Monash University et le gouvernement français. Et puis, nous travaillerons et nous accueillerons la gouverneure de Tasmanie avec le gouvernement de Tasmanie et les parlementaires pour aussi célébrer non seulement notre forte amitié avec Hobart, mais aussi notre travail en commun entre l'Institut Paul-Émile Victor, qui est responsable aussi d'affréter l'Astrolabe à ce moment-là, et le gouvernement de Tasmanie. Donc beaucoup de choses, et on finira en beauté puisque nous célébrerons le vendredi 6 mars le 400e anniversaire de la marine française.
C'est énorme, énorme.
Et là, nous aurons au moins 2 à 3 bateaux qui seront là aussi, et donc qui montrent à quel point on est présent en fait dans cette partie du monde.
Ouais, Paul-Émile Victor, faut rappeler, c'était un explorateur de grand nom, de renom, qui a vraiment fait connaître l'Antarctique au plus grand nombre.
Exactement. Et Christophe, en fait, 400 ans de la marine française, c'est aussi surtout l'occasion de célébrer nos grands marins et nos grands explorateurs. Bruny d'Entrecasteaux, qui est venu en Tasmanie en plusieurs reprises à la fin du XVIIIe siècle et qui a laissé son empreinte avec beaucoup de noms, et qui a des archives absolument extraordinaires et un témoignage sur la culture des First Nations, les Palawa People, absolument extraordinaire dans ces archives qui ont été remises au gouvernement australien il y a maintenant 2 ans. Donc on va célébrer les explorateurs d'hier, mais les explorateurs aussi d'aujourd'hui, avec nos grands explorateurs qui, du pôle Nord jusqu'au pôle Sud, continuent leur œuvre de découverte et de vulgarisation scientifique.
Si on extrapole un petit peu et si on élargit un peu la discussion aujourd'hui, ça c'est vraiment un marqueur de la bonne santé des relations franco-australiennes. Ce qui se passe dans les semaines à venir à Hobart, c'est vraiment, je vais pas dire un renouveau des relations parce qu'elles n'ont jamais été complètement disséminées, mais on sait que ça a été un peu problématique les dernières années avec notamment les sous-marins, donc du coup aussi la marine et les marines engagées. Mais on sent qu'aujourd'hui ça va nettement mieux quand même. Et ça fait aussi partie d'un des signaux qui veut dire que ça va nettement mieux.
En fait, sur tous les plans, je me suis attaché depuis que je suis arrivé, mais c'est surtout le restart entre le Premier ministre Albanese et le Président de la République Emmanuel Macron à l'été 2022, qui ont initié en fait un cycle d'action en commun qui nous permet de développer une coopération sur tous les fronts. Elle est scientifique, elle est militaire, elle est de ces coopérations de sécurité. Je prends juste un exemple, puisque c'est pas loin de chez nous, mais regardez l'action extraordinaire des forces françaises dans le Pacifique, qui ont permis d'intercepter près de 15 tonnes de cocaïne, 14 tonnes pour être en moins d'un an. 14 tonnes de cocaïne qui étaient destinées à l'Australie. On travaille très très bien les uns avec les autres. Et le trafic de drogue, c'est vraiment un sujet qui nous préoccupe tous. Et là-dessus, on voit bien à quel point la coopération est renforcée. Donc sur tous les plans, ça se développe bien. Et en particulier dans la coopération scientifique qui sera célébrée à Hobart dans une semaine.
Alors vous n'êtes pas encore sur le départ, hein, mais pour vous, justement, c'est important d'avoir continué cette action tout au long de votre mandat, même si le mandat arrive bientôt à son terme, sans trop donner de détails, mais on le sait, vous n'êtes pas forcément là pour toute
une
ville.
Alors nous, il faut laisser la place après à d'autres qui ont aussi envie d'apporter leur pierre à l'Australie. Mais en tout cas, ce que je me suis attaché à faire, c'est à travers une feuille de route extrêmement complète, de relancer une dynamique de coopération dans les domaines économiques, scientifiques, éducation, politique, défense et sécurité, parce que l'Australie est un grand partenaire. Nous partageons les mêmes valeurs, et on le voit sur la scène internationale, on est ensemble sur l'Ukraine, on est ensemble sur la solution au conflit israélo-palestinien, on est ensemble pour la lutte contre les effets du changement climatique et pour limiter ce changement climatique. On voit bien, on a beaucoup de sujets en commun, non seulement dans la région, mais aussi à l'échelle mondiale.
Mais ça, c'est clé. C'est important ce que vous venez de dire sur le rôle entre la France et l'Australie au niveau de l'échelle mondiale, parce qu'on sait que les cartes ont été rebattues depuis un an et demi, on va dire, avec l'arrivée d'un certain président américain qui a vraiment, je vais le dire comme un chien dans un jeu de quilles, et a chamboulé certains momentum qui se passaient depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. On pense par exemple à l'Alliance Atlantique. C'est important de montrer un corps soudé derrière, ou en tout cas un front pour dire que bon, tout ne peut pas forcément changer tout de suite, mais on est solide et on est dans nos valeurs. Et les valeurs françaises et valeurs australiennes, c'est les mêmes.
Absolument, nous avons la même approche d'un monde et d'un ordre international qui soit fondé sur les règles. Car si au fond, ce n'est plus la règle délibérée démocratiquement et dans nos instances internationales qui s'applique, au fond c'est la loi du plus fort qui triomphe. Et la loi du plus fort, c'est pas le régime que l'on souhaite. Et donc nous sommes très fortement attachés avec l'Australie à préserver les institutions internationales construites après la Deuxième Guerre mondiale et notre travail en commun pour faire triompher le droit, la norme, la règle internationale et surtout le respect des uns et des autres pour éviter le recours à la force.
La présidence du G7 de la France qui arrive, elle est importante aussi dans la perception de ce que fait la France à travers le monde. Et,
ce G7 sera absolument déterminant.
On est d'accord,
oui. Parce que le G7 a été créé en 1975, il y a 50 ans maintenant, sur initiative française, à l'époque du président Valéry Giscard d'Estaing, pour résoudre les défis économiques qu'on avait après le choc pétrolier. Et la volonté du président de la République, elle est bien aussi d'essayer de travailler avec l'ensemble des pays sur les déséquilibres économiques du monde actuel. Je vais les résumer en deux secondes, mais tout le monde le sait très bien, ils sont très simples. On a une Chine qui a des excédents faramineux avec l'ensemble du monde, et qui en même temps consomme très peu en consommation intérieure. Sa dynamique, elle repose beaucoup sur l'extérieur. En Europe, on a un déficit d'investissement Et donc ça pèse aussi sur les déséquilibres mondiaux. Et aux États-Unis, on a les doubles déficits bien connus.
Parce qu'on fait rien à moitié là-bas.
Exactement. Donc en fait, il faut que ces déséquilibres économiques, il faut qu'on les traite parce que ça a des impacts géopolitiques, ça a des impacts sur la stabilité du monde. Et donc le but d'un G7, et ce que le président de la République a souhaité, c'est que les pays qui sont partie prenante de ces déséquilibres, soit qu'ils en sont à l'origine, soit qu'ils soient affectés, puissent être autour de la table et essayer d'abord de dresser un diagnostic commun. Il faut se mettre d'accord sur des termes, mais souvent c'est le plus difficile. Il faut aussi être capable de se fixer des objectifs et quand on se fixe des objectifs, de les suivre. Et donc ça, c'est un objectif très ambitieux, mais c'est absolument déterminant dans le monde dans lequel on vit. Si nous ne résolvons pas ces déséquilibres, nous allons faire face à des tensions beaucoup plus fortes et on le voit bien avec la tentation parfois de vouloir se protéger avec qui des droits de douane, qui d'autres mesures, etc. Alors que malgré tout, et au final, il faut le rappeler, le commerce tel qu'on l'a encouragé, les règles telles qu'elles ont été fondées après la Deuxième Guerre mondiale, ont permis une croissance très forte de nos pays, la sortie de la pauvreté de centaines de millions de personnes dans le monde, et donc c'est un régime qui est gagnant-gagnant. Donc il faut aussi le préserver, et puis respecter surtout des règles équitables de tous dans cet ensemble global qu'est le monde aujourd'hui, qui est devenu très intégré.
Absolument. Un autre point sur lequel je voulais qu'on discute, c'est la limitation des réseaux sociaux pour les plus jeunes, loi qui est rentrée en vigueur en Australie, ça a fait énormément de bruit à travers toute la planète. Je pense que ça fait trembler plusieurs personnes dans leurs bottes aussi, hein, les géants américains et géants chinois, parce que ça change la donne encore une nouvelle fois par rapport aux réseaux sociaux. En France, on a pris cette directive aussi. Vous avez sûrement dû être beaucoup impliqué sur les explications de texte de la solution australienne et de la mise en action et de l'inspiration de la France par rapport à une solution qui est aujourd'hui en fonction en Australie.
Alors, il est tout à fait clair que l'exemple australien est très inspirant. Et que on le suit avec attention. On a beaucoup de discussions avec les responsables en charge de cette politique publique. Elle est d'ores et déjà fait l'objet d'une proposition de loi qui a été votée à l'Assemblée nationale en France, et donc qui est dans son processus d'adoption. On le voit bien. Je crois qu'il faut le mettre aussi dans une approche d'ensemble. L'approche d'ensemble, c'est la santé mentale des jeunes générations. Le gouvernement français avait initié un travail qui a commencé par les plus jeunes. C'était le rapport sur les 1000 jours. Et puis après, il a travaillé sur la commission enfants et écrans en particulier, qui a absolument recommandé de ne pas exposer les très jeunes enfants aux écrans, quoi qu'il arrive, mais aussi de travailler sur la santé mentale et leur impact avec qu'on peut avoir les réseaux sociaux, etc. La protection des plus jeunes et des mineurs, et en particulier des adolescents dans cette phase très particulière de construction de leur personnalité, elle est déterminante. Et on voit bien le mal-être qu'il y a, et donc ça, c'est un problème de santé public qu'il faut traiter. Et là, nous sommes reconnaissants aussi à l'Australie d'avancer la première. On voit bien, c'est pas si simple. Hein,
ouais, tout à fait,
les contournements, les points, etc. C'est très inspirant. Chaque pays a des législations déjà un peu différentes, mais c'est une grande inspiration et en tout cas un aspect de la coopération qui est particulièrement intéressant et qui se développe, comme vous pouvez l'imaginer.
Ça a été une question qui a été, je suppose que vous vous rencontrez avec tous les ambassadeurs dans le monde, avec les autorités françaises. On vous a questionné dessus sur l'application de cette loi, sur l'efficacité, sur les contournements, etc.
Alors après, c'est toujours un mouvement en fait dans le travail quotidien de l'ambassade. Déjà, moi, je suis en push. C'est-à-dire que tout de suite, quand j'ai vu monter le rapport, qui est à l'époque, j'avais rencontré les parlementaires qui étaient en charge de la commission avant même la loi. Et on voyait bien que ça montait sur des problématiques qui étaient aussi des problématiques de comment on aide nos jeunes adolescents et enfants à faire face aux écrans et à l'impact des réseaux. Donc on a été très en push quand la loi a été présentée. Donc, et puis évidemment, quand ça prend de l'ampleur et suite que ça vient sur la scène mondiale, on a aussi des demandes en retour. Et l'Australie elle-même, elle avait organisé d'ailleurs une session au moment de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre dernier pour présenter l'initiative et les échanges échanges entre les autorités de régulation sont constantes. Mais oui, c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de demandes.
Beaucoup de demandes, d'accord. J'imagine, c'est un sujet assez chaud, en tout cas dans l'actualité mondiale. Dernier sujet sur lequel je voulais qu'on discute, c'est il y a eu pas mal de remises de médailles dernièrement. Si je suis les réseaux sociaux, il y a eu pas mal de... Mais au-delà de la remise de médailles, c'est pas mal de reconnaissance de la part des différents services français, des différents parties du gouvernement français envers les activités de Français ici, enfin Français ou autres d'ailleurs, ici en Australie.
Vous avez raison, on est le gouvernement est extrêmement attentif à l'activité des Français à l'étranger, ou de ceux d'ailleurs qui font
rayonner
qui la français,
France.
Font rayonner la culture, la gastronomie, la France. Donc j'ai à cœur de pousser aussi des candidatures dans le domaine des arts et des lettres, dans le domaine de la gastronomie, dans le domaine de l'information. On a dans le domaine du business, on a des gens qui montent des superbes entreprises, qui développent et qui, ce faisant, font aussi développer l'activité en France parce que ça attire. Ça, moi, je trouve qu'on a une communauté, en particulier en Australie, qui est absolument extraordinaire. Elle est très franco-australienne, c'est-à-dire que j'aime bien ce... Elle est très binationale. Elle est ultra dynamique.
Mais fière de l'être.
Elle est fière d'être binationale. Elle est dynamique. Elle se bat tous les jours pour que le français continue à être enseigné partout en Australie. Elle est aux premières loges aussi quand il y a un coup dur avec l'Australie. Comme l'Australie est tout de suite là quand nous on a un coup dur.
Bah ça, on l'a vu avec les attentats à Bondi. Il y a fait
l'attentat
à Bondi.
Absolument. Et moi, j'étais fier de venir représenter tout de suite la France parce que j'avais en tête la manière dont l'Australie avait été si présente au moment des attentats de novembre 2015 au Bataclan et puis au moment des attentats horribles sur Charlie Hebdo. Donc on voit bien que l'Australie et la France, quand on dit partager des valeurs, c'est vraiment pas des mots, on le vit physiquement et on est avec nos amis dans les moments heureux comme aux Jeux Olympiques en ce moment.
Voilà, ouais.
Et puis dans les moments douloureux, parce que il n'y a même pas à réfléchir, tout de suite ça vient. Et vous seriez très surpris du nombre de messages que je reçois, comme il y a eu après Bondi, etc., d'offres de coopération. La communauté ici française, elle se met en action immédiatement. Qu'est-ce qu'on peut faire? On aide les uns les autres, etc. Et donc c'est un bonheur d'avoir la responsabilité aussi parfois de représenter cette communauté. Et je les en remercie tous les jours.
Ouais, tout à fait. Et ces remises de médailles, c'est un acte pour un ambassadeur qui est aussi valorisant.
C'est valorisant, c'est on raconte aussi des histoires personnelles, parce que une médaille, c'est la rencontre à la fois d'une valorisation d'une action collective, mais c'est aussi un parcours intime. Et là, on voit finalement dans ces parcours comment les gens sont arrivés jusqu'ici, à l'autre bout du monde, comment ils ont fait leur vie, comment ils maintiennent des liens avec la France, et donc on honore non seulement une action exemplaire, mais aussi ce fil ténu qui est tissé jour après jour entre notre pays très lointain ce grand pays continent qu'est l'Australie.
Absolument. Allez, merci d'être passé. En tout cas, on va conclure cet entretien-là. Je sais que c'est pas la fin de votre mandat, mais on va se reparler tout au gré de l'année.
Non, alors vraiment, on a un programme d'activité sur l'année qui est absolument colossal.
J'allais y venir. Voilà. Il se passe quoi cette année? Parce qu'il s'est énormément de choses.
Mais ne serait-ce que dans les deux prochaines semaines, je veux dire, on aura. Vous pouvez avoir de la France avec le Festival du film français.
Absolument.
Des alliances françaises qui revient et qui redémarre dès la semaine prochaine. On aura en même temps donc notre grande opération Hobart, le grand festival à Adélaïde où les Français sont bien représentés, et après j'en finis là, mais quelques jours après vous avez aussi la Biennale de Sydney avec une grande délégation d'artistes françaises qui viennent, mais aussi la finale du concours Ambassadeur en Herbe qui réunit les jeunes de tous les lycées français d'Asie-Pacifique qui viendront à Canberra pour au lycée Telopea pour tenir leur finale, et je les accueillerai avec grand plaisir.
Voilà, et on n'a même pas encore parlé plus loin des Bastille Day, etc. Donc il y a encore énormément
de visites de ministres français aussi prévues pour la fin avril.
Des sénateurs
sénateurs qui sont venus et qui viennent encore. Donc on a une très très grande activité. Ce qui montre à quel point nos liens sont forts. par-delà les parfois le, dans le passé, ce sont des liens qui s'inscrivent dans l'histoire et ce sont sans doute les liens les plus forts.
Mais ces liens du passé, il y a un moment, il faut arrêter d'en parler quand même. C'est dans le passé et c'est ce qui s'est passé pour les sous-marins. Il y a un moment, il faut arrêter d'en parler.
Oui, mais ça, je veux dire, il y a les petites histoires dans les grandes histoires. La grande histoire, c'est que nos pays sont très proches et unis par des valeurs et ils se projettent ensemble dans une vision d'un monde que l'on veut plus sûr pour nos concitoyens et respectueux des uns et des autres.
On va finir là-dessus. Merci d'être passé.
Merci.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Nobody knows Australia like Ernie Dingo. And the reason's simple. He's never stopped exploring.
You got to tell me about this.
On the new season of Going Places with Ernie Dingo, Ernie's joined by Mark Cole Smith.
This is such a unique experience.
Ray Johnston and Brooke Blurton.
Magnificent.
It's pretty special.
They'll show you our country at its most breathtaking.
Oh, my. Amazing.
Going Places with Ernie Dingo. Stream free on SBS On Demand.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts.
You got to tell me about this.
See the breathtaking beauty of Australia with the man who knows it better than anyone else, Ernie Dingo.
Oh my, amazing.
Going Places with Ernie Dingo. Stream free on SBS On Demand.